Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, je vous avais dit la semaine dernière que vous auriez une petite nouveauté dans l'émission de cette semaine. Eh bien cette nouveauté, c'est une carte blanche que je donne aujourd'hui à une mélomane qui va nous partager pendant 7 heures ses coups de cœur musicaux. Mais avant de lui donner la parole, petit crochet au téléphone avec Philippe Fosseux pour présenter le prochain concert de la saison de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, plus connue sous le sigle de l'ALMC. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Dominique.
Donc, prochain concert de la LMC, ça vient vite maintenant, c'est lundi prochain, le lundi 20 novembre. On rappelle le nouvel horaire de 20h à la salle Poirel, oui. Avec donc un programme piano, enfin violon-piano.
Oui, violon-piano, ou piano-violon, voilà. Suivant ce qu'on préfère. Mais on va dire violon-piano, c'est une formation en sonate qui est très courante et pour laquelle il y a un répertoire absolument merveilleux.
Un répertoire
très large.
Et alors, on aura quoi ?
Alors, là, on a choisi, avec les musiciens, on a choisi une soirée de musique française. On fait beaucoup dans la musique allemande, donc il fallait que la musique française soit aussi représentée. Et cette soirée, elle va tourner autour de Gabriel Fauré,
oui.
Avec sa magnifique sonate numéro 1 pour piano et violon. Et en quelque sorte, ce sera une espèce de soirée autour de Gabriel Fauré qui sera là et il y aura ses amis, ses connaissances, il y aura Claude Debussy, il y aura Saint-Saëns, il y aura Lili Boulanger, Pauline Viardot, Ernest Chausson, Maurice Ravel,
Henri Duparc,
et un adopté par la France qui est Henri Vieuxtemps, qui est belge.
Il vient pas de loin, lui.
Voilà, il s'est pas très loin. Il a passé beaucoup de temps en France, mais enfin, on va le considérer comme l'enfant adoptif de la musique française.
Alors, le programme va se composer comment ? C'est toutes les petites pièces en première partie et puis la sonate de Fauré en deuxième partie ?
Non, alors on a innové là encore. On va faire une première partie avec deux petites pièces d'introduction, le temps de se mettre les oreilles en route.
Oui.
Parce qu'il faut juste s'échauffer un tout petit peu, en quelque sorte. Hein, c'est l'échauffement de départ. Ensuite, on aura la sonate.
Oui.
Et puis après l'entracte, on aura la petite, on va dire, alors je ne sais pas comment appeler ça, j'allais dire Schubertiade, mais c'est pas tout à fait...
Schubertiade à la française, quoi, voilà.
Schubertiade à la française, voilà.
Bien, alors, on n'a pas parlé des musiciens.
Non, bah, il faut quand même parler des musiciens,
ah bah oui.
On a deux grands musiciens qui sont nos invités, que sont Franck Bralet et Hugues Borsarello. Donc Franck Bralet au piano et Hugues Borsarello sont deux complices, ils jouent ensemble depuis bien longtemps, et ils font partie de ce que j'appelle la petite bande, moi. Toute cette équipe de Gauthier Capuçon, Renaud Capuçon, avant son décès de Nicolas Engelich, etc., ils ont tous fait leurs études à peu près en même temps, au même moment. C'était des amis et des copains de conservatoire et de soirée. Et donc, ils se connaissent très bien, ce qui donne une qualité dans la complicité absolument fantastique.
Et on a eu Hugues Borsarello il n'y a pas longtemps, je crois, déjà. Hein.
Alors, on a Borsarello de temps en temps, parce que c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Hein. Il est soliste, bien sûr, évidemment. Il est aussi le directeur artistique de l'orchestre des concerts amoureux, de l'orchestre de chambre des concerts amoureux. Donc, il était là pour accompagner François Dumont.
Tout à fait, avec les concertos de Chopin.
Il n'y a pas très longtemps qu'il jouait les deux concertos de Chopin. Bon, il fait aussi, bien sûr, de la musique de chambre en trio, en quatuor. Donc, on le retrouve souvent. Il était venu avec Gauthier Capuçon et... avec Gérard Cosset pour jouer les trios à cordes qui sont relativement peu souvent joués. Voilà, donc on a, c'est un homme qu'on voit souvent à Nancy.
Oui, et puis qu'on aime bien.
Et puis on l'aime bien, bon, il faut savoir aussi que il était le violon solo de l'orchestre de chambre d'Alsace, donc j'étais le président.
Voilà.
Donc je le connais bien.
Bien, il y a encore un peu de place. Comme toujours,
il y a encore un peu de place. quelques très bonnes places. Bon, puis après, les places de série 2, mais il y a encore quelques très belles places à prendre.
D'accord. Donc, je rappelle, lundi 20 novembre, 20h, salle Poirel, concert de musique de chambre, Franck Bralet au piano, Hugues Borsarello au violon, un programme de musique française autour de la première sonate pour piano-violon de Gabriel Fauré. Voilà, bien écoutez, Philippe, merci, bonne soirée à vous, et puis on se retrouve le 20 novembre à la salle Poirel.
Merci, au revoir. À bientôt.
Tempo Classique sur RCN, Dominique Breda.
Bonsoir Nadine Gasparetti et merci d'avoir accepté d'être ma première carte blanche.
Bonsoir Dominique Breda, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Alors le milieu de la justice a peut-être dressé un petit peu l'oreille en entendant votre nom puisque vous avez été durant de nombreuses années avocate au barreau de Nancy. Oui. Alors on parlera un petit peu de justice tout à l'heure. Mais je ne vous ai pas invité pour ça, mais plutôt pour tous les centres d'intérêt divers et variés que vous avez et que l'on va découvrir tout au long de cette heure dont, je le rappelle, vous avez choisi vous-même la programmation musicale. Alors on va commencer avec de la musique de la fin de la Renaissance qui a été écrite par le neveu de Saint-Charles Borromée qui était aussi le petit-neveu du pape Pie IV, j'ai nommé Carlos Gesualdo. Alors pourquoi ce choix de Gesualdo ?
Parce qu'il est atypique dans la composition des madrigaux, c'est un contemporain de Monteverdi, il ne faut pas l'oublier, mais il est particulièrement mystérieux, étrange, avec une musique atonale. Et puis, il est surtout connu parce qu'il a été un meurtrier, il a assassiné son épouse et le duc d'Andria, pris en plein adultère un soir de novembre, accompagné de ses sbires. Et c'est en cela un homme de son temps, c'est-à-dire extrêmement lettré, croyant, raffiné et violent à la fois, violent jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'assassinat.
Donc, en fait, on le nommait le compositeur meurtrier, hein.
Oui.
Alors, est-ce que l'avocate l'aurait défendu ?
Oh, très certainement, car c'était une coutume à l'époque que de laver l'honneur de la famille dans le sang. Et nous avons des précédents. Nous avons un précédent avec Dante, dans le chant numéro 5 de l'Enfer, avec Paolo et Francesca da Rimini, qui sont assassinés par l'époux de Francesca, et j'aurais donc plaidé une habitude certes immorale, mais coutumière à l'époque de la Renaissance avec des antécédents de jurisprudence, pourrait-on dire. Et puis j'aurais insisté sur sa mort désespérée, son repentir, son immense culpabilité, que l'on sent très bien dans l'écriture des Lamentae ou des Lamentations pour parler français. Et l'on a un tableau de Balducci, un auteur de la contre-réforme, représentant Carlo Gesualdo, prince de Venosa, auprès de Saint-Charles Borromée, implorant le pardon. J'aurais donc plaidé, bien évidemment, le repentir et des circonstances atténuantes.
Et vous pensez qu'il aurait été acquitté ?
Acquitté, sans doute pas. Si nous nous en tenons à la jurisprudence de notre époque, sous la Renaissance, compte tenu de sa célébrité, de son appartenance à la haute aristocratie, peut-être aurait-il eu une peine de principe.
D'accord. Eh bien, on va écouter ce madrigal de Gesualdo.
Oh,
C'était un madrigal extrait du sixième livre de Carlo Gesualdo, Moro lasso al mio duolo, Je meurs là de mes souffrances, dans l'interprétation du Collegium Vocal de Gand sous la direction de Philippe Hervaig. Alors le second choix de mon invité pour cette carte blanche, c'est Händel, le musicien voyageur. Alors Nadine, vous aimez les voyages ?
Oui, j'aime particulièrement les voyages, sans avoir été une voyageuse hors pair, mais je connais bien la France, un peu l'Angleterre, un petit bout d'Espagne, et bien évidemment l'Italie de la Renaissance, vers qui vont tous mes soupirs et mon adoration.
Alors qu'est-ce que ça représente pour vous de voyager ?
Apprendre à connaître, à regarder, à aimer les choses que l'on voit, à faire de l'histoire, un retour sur l'histoire, de l'art particulièrement, puisque c'est ce qui me passionne le plus.
Alors, Händel s'est pas mal promené en Europe, un peu comme vous, et finalement il s'est fixé à Londres, mais vous vous êtes fixé à Nancy, en venant d'Italie.
Alors, je suis née en France, je suis une Italo-Française, je suis une fille d'immigrés. Tout de suite après la guerre de 1940, et j'ai l'habitude de dire que mon cœur est français, ma culture est française, et que je me sens bien dans la peau d'une Française, mais que quelque part, je suis à cheval sur les deux civilisations extraordinaires que sont celles de la France et de l'Italie, et qu'une part de mon âme reste en Italie.
En Italie, on fait bien la cuisine, mais vous aussi, vous faites bien la cuisine. Vous aimez la cuisine, m'a-t-on
oui.
dit.
J'aime la cuisine, oui.
Et quel est le plat préféré avec lequel vous aimeriez régaler vos invités ?
Oh, nous allons composer un petit menu. Je commencerai par un risotto au cèpe avec du parmesan. Je continuerai soit par une pintade aux pêches, soit par un filet de bœuf avec une sauce au foie gras.
Ah oui, bah oui.
Puis en dessert, une charlotte au citron vert.
Ah oui, très bien. Et les amandines ragnaux, vous pouvez nous en parler un peu ?
Ah, parce que la passacaille, qui est une danse et que nous allons entendre, oui. une danse à l'instar de la chaconne ou de la volte, est une pièce, une intervention musicale chatoyante, dynamique, enlevée, et qu'on peut l'écouter en dégustant un thé Earl Grey. Et les tartelettes amandines dont Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac nous donne la recette sous les mots de Ragnaud, le pâtissier qui fait des verres.
Eh bien, on écoute cette passacaille. Thank you. C'était la passacaille en sol mineur de Handel sous les doigts du claveciniste Richard Egar.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Nadine Gasparetti, on aurait pu encore parler de tas d'autres choses sur Handel, sur Londres, sur les peintures urbaines de Canaletto par exemple, avec les vues de Westminster et puis de...
Du château de Windsor.
Château de Windsor,
oui,
voilà,
car Canaletto, lui aussi, s'est promené en Angleterre. Il est pratiquement contemporain de Handel et en dégustant le thé, on peut regarder ses très belles peintures.
Voilà. Eh bien, on va changer totalement d'univers avec Franz Schubert et sa sonate en La majeure Deutsch 959, son avant-dernière sonate. Alors, on est en plein romantisme allemand, une époque qui vous parle.
Ah, c'est incontournable de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court. Le romantisme allemand touche en effet tous les arts, la littérature avec Goethe par exemple, Schubert, mais on pourrait aussi ajouter Schumann. Schubert qui est un musicien qui travaille très fortement les émotions.
Ah oui.
Caspar David Friedrich, qui est un représentant notable, peut-être le plus important de la peinture romantique allemande, et dont j'ai la présence à l'esprit de la peinture représentant un homme en redingote, debout sur un rocher, contemplant la brume qui se développe sur la plaine, et qui fait comprendre que le romantisme allemand est basé sur le sentiment, l'expression personnelle, et aussi sur les tourments de l'âme.
Alors, on vient d'évoquer un petit peu la peinture. Alors, vous-même, vous peignez. Hein, j'ai pu même voir quelques-unes de vos toiles. Vous exposez de temps en temps dans le cadre du Salon des artistes lorrains.
Oui, à chaque occasion, si le jury m'accepte. Jusqu'à présent, cela a été le cas. Je peins depuis toute petite, je dessine en observant tout simplement les choses de la vie.
Alors qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous donneriez envie aux gens de s'orienter vers la peinture ?
Ah, il faut que ce soit un mouvement très personnel. Il faut qu'au départ, il y ait un désir, une envie de produire quelque chose à partir de son propre intellect et de ses doigts, de ses mains. C'est aussi un mouvement de tout le corps que de peindre. Mmh. Ce n'est pas seulement un mouvement de l'intellect, comme je viens de le dire. Je conseillerais de commencer, par exemple, par peindre le ciel que l'on voit, par dessiner, puis peindre une pomme selon les saisons, et de laisser libre cours à chacun de développer sa sensibilité dans l'abstrait ou le figuratif.
Alors, cet andantino de la sonate Deutsch 959 que nous allons écouter a été également utilisé dans le cinéma.
Oui, parce que c'est une musique qui touche le cœur profond, qui est d'une grande sensibilité, qui travaille encore une fois les émotions. Et cette andantino a été utilisée dans le film Le Colonel Chabert avec Gérard Depardieu. Et le film commence par la vision de scènes apocalyptiques de la bataille d'Eylau sous Napoléon Ier, sous un ciel hivernal, de la neige, et l'on voit le désastre de cette bataille par le nombre de morts sur le champ de bataille, avec des décombres de canons et des cadavres de chevaux morts. Et c'est à la fois très impressionnant et très émouvant.
Donc c'est la vision qu'en avait Robert Bresson. On écoute l'andantino.
Thank you.
c'était l'Andantino de la sonate Deutsch 959 de Franz Schubert sous les doigts d'Arkady Volodos. Alors avec le choix suivant, Nadine Gasparetti, nous retournons en Italie, mais pour de l'opéra et un grand nom de l'opéra, Giacomo Puccini. Je crois que vous aimez particulièrement l'Italie, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
C'est en quelque sorte ma terre natale. J'ai du sang italien qui coule dans mes veines et je suis particulièrement attachée à la civilisation italienne. On peut parler de civilisation parce qu'elle a construit le monde en grande partie, l'Italie à partir de Rome et dans les siècles qui suivront, particulièrement à la Renaissance. Par conséquent, il est tout à fait normal que j'y sois profondément attachée.
Et c'est un pays qui inspire aussi la peintre ? L'artiste peintre ?
Oui, j'ai fait des aquarelles du lac Majeur, dont je suis proche, puisque ma famille est native de Varèse et que nous sommes à quelques kilomètres du lac Majeur. Il fait donc partie de moi-même et de mon enfance.
D'accord. Alors, avec l'opéra, on est un peu dans la sphère du théâtre que vous avez pratiqué pendant de longues années.
Oui, j'ai été élève au Conservatoire d'art dramatique de Nancy dès l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 22 ans où j'ai pris mes études de droit véritablement en main, si je puis dire.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Pratique de théâtre.
Ah, une extraordinaire joie, celle de donner vie et chair à des personnages, la plupart du temps envoûtants. J'avais 16 ans, j'ai travaillé pratiquement toutes les jeunes premières qui ont été écrites par de grands auteurs. Par conséquent, cela m'a aidé à avoir de l'aisance verbale, une présence physique aussi, qui me servira plus tard dans mon métier.
Oui, j'allais vous poser la question, mais autant que vous le disiez vous-même directement.
Oui, mais plaider n'est pas faire du théâtre. Au théâtre, disait Puccini, il y a des règles incontournables. Intéresser, surprendre, faire pleurer ou rire. Lorsqu'on plaide aux assises ou une affaire civile importante, on plaide en fait et en droit. Et croyez-moi, on ne fait pas d'effet de manche. Cela est une vue un peu puérile, je trouve, de notre métier. C'est un poncif qui revient dans la bouche de beaucoup, mais je crois qu'il faut véritablement séparer les deux choses.
C'est bien, c'est un métier que vous défendez bien, c'est tout à votre honneur. Alors on revient à Puccini, vous avez choisi un extrait de Suor Angelica. Parlez-nous un petit peu de ces trois opéras en fait.
Oui, ce sont trois opéras en un acte, un triptyque composé de Il Tabarro, Suor Angelica et Gianni Schicchi, dont le fameux Caro mio bambino est une attaque connue de toutes les cantatrices, y compris la Callas, qui l'a superbement chantée, mais aussi Renata Tebaldi, actuellement les jeunes sopranos de notre génération. C'est une musique qui allie le tragique, le lyrisme et le comique. C'est une peinture sociale du Paris du 19e siècle pour Il Tabarro, Gianni Schicchi pour le Moyen-Âge italien et Suor Angelica pour le 17e siècle. Suor Angelica a été enfermée dans un couvent. Elle a mis au monde un enfant illégitime qui mourra. Et dans cet air terriblement puccinien, qui fait penser à d'autres opéras de Puccini, notamment Madame Butterfly. On écoute là quelque chose qui étreint le cœur, puisqu'elle pleure la mort de son enfant, et elle pleure aussi sur sa mère qu'elle a perdue.
On écoute.
Thank you.
C'était Asmik Grigorian dans l'air Senza Mama, extrait du Suor Angelica de Giacomo Puccini. Alors, changement total d'univers avec la pièce qui arrive maintenant, c'est un extrait des Offrandes oubliées d'Olivier Messiaen. Alors, vous m'avez dit, Nadine Gasparetti, en écoutant cette pièce, que vous voyez des couleurs, mais sans savoir que c'est également le cas d'Olivier Messiaen, qui lui aussi associe les couleurs à bon nombre de ses œuvres. Alors, on a cherché le nom de ce phénomène, ça s'appelle la synesthésie. On rencontre ça aussi chez certaines personnes sourdes qui voient des couleurs quand on leur diffuse de la musique, ou qui chez eux, ou chez ceux qui se droguent, notamment à la mescaline, paraît-il. J'ai pas fait la tentative, mais il paraît que c'est comme ça. Alors, dans cet extrait qui s'appelle Le péché, Messiaen écrit ce commentaire. Poussé par la folie et le dard du serpent, dans une course haletante, effrénée, sans relâche, nous descendions dans le péché comme dans un tombeau. Alors je vous propose d'écouter cette pièce, puis après vous nous direz à quelle couleur ça vous fait penser. C'était Le péché, extrait des Offrandes oubliées d'Olivier Messiaen dans l'interprétation de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Myung-Woon Chung. Alors Nadine Gasparetti, quelle couleur ?
Incontestablement du bleu, du rouge, toute une gamme de jaune et d'orangé. À l'instar des vitraux installés dans la cathédrale de Metz de Chagall, qui représentent la tentation d'Adam et Ève et leur péché, le péché originel. Ce sont des couleurs qui me viennent à l'esprit. Quelquefois, ce sont des images aussi.
Alors, quelles images, là ? Il y en avait ?
Quand nous aborderons Debussy, si vous voulez bien.
Eh bien, on y va. Debussy, on remonte donc un petit peu dans le temps, puisqu'on est à la charnière entre le 19e et le 20e siècle. Alors, les liens sont forts entre la musique, la littérature et la peinture, je suppose, au moins.
Oui, car c'est une musique d'un grand raffinement, impressionniste, et j'ai, concernant Debussy, en tête particulièrement des images de nature, de campagne de Claude Monet, ou bien alors ces nymphéas. La littérature me fait penser aussi à Guy de Maupassant, parce qu'il y a souvent dans la musique de Debussy un peu de nostalgie, et je pense à une vie qui se termine ainsi. La vie, ce n'est jamais ni aussi bon ni si mauvais qu'on croit.
Bah écoutez, on va écouter une œuvre de jeunesse de Debussy, le trio pour piano, violon, violoncelle. C'était un extrait du trio pour piano, violon, violoncelle de Claude Debussy par le trio Ernest. Alors pour terminer cette carte blanche, on va parler en 2 minutes de Dmitri Chostakovitch, Nadine Gasparetti.
Oui, un artiste, un compositeur extrêmement connu qui accepte les commandes de l'État stalinien et qui, pour conserver une certaine liberté, conservera avec ce pouvoir politique toute sa vie une relation ambiguë. Mais dans cette cinquième symphonie, dont nous écouterons un extrait, la fin, eh bien, il exprime toute sa contestation du stalinisme et de la dérive qu'il représente.
C'est le sous-titre de cette symphonie, c'est « La réponse concrète et créative d'un artiste soviétique à une critique justifiée ». Voilà, on écoute cette fin. C'était le final de la 5e symphonie de Chostakovitch, l'orchestre du Capitole de Toulouse, sous la direction de Lahav Chani. Quelques annonces pour terminer rapidement. Samedi 18 à 17h15, dimanche 19 à 15h15, à Novian-et-Aupré, dans les locaux du facteur d'orgue Jean-Baptiste Gopillat, un concert à deux pianos avec Antoine Ouvrard et Carole Alonso. Toujours ce samedi 18 à 18h à l'église de Tincry, à côté de Delme, concert pour les 100 ans des cloches de l'église, avec Alexandre Clauss et David Buzavon, deux trompettistes de l'Orchestre National de Metz, que j'aurai le plaisir d'accompagner. Ensuite, dimanche 19 à 16h à l'église de Pont-Saint-Vincent, concert flûte de Pan et piano, avec Rima Metari à la flûte de Pan et Kiss Van Fieser au piano. Et puis dimanche 19 à 16h à l'église Sainte-Bernadette de Vendeuve, un concert de l'orchestre Harmonia dirigé par Pierre Colombin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine à tous. Merci à Pierre, merci Nadine pour votre présence parmi nous. À merci. La semaine prochaine. Thank you.